d'emploi. Mode d'emploi.
.3, fréquence Paris Pluriel, vous êtes sur l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et ce soir, émission spéciale 8 mai 1945, enfin plutôt 8 mai 2015. Et en cette journée de commémoration de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on peut se poser la question, est-ce que toutes les commémorations se ressemblent? Parce que finalement, à part un petit discours du maire, on voit les anciens combattants qui arrivent. D'abord, ils sont plus du tout de la Première Guerre mondiale ce coup-ci. Et ils se rassemblent, il y a une petite musique, une fanfare. Bref, toutes les commémorations sont les mêmes, non, Jean-Marc?
Alors déjà, un petit bémol, ce n'est pas la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe et en Afrique, puisque en Asie, ce sera le 2 septembre 1945, après Hiroshima et Nagasaki. Alors non, toutes les commémorations ne se ressemblent pas, et c'est bien tout l'enjeu de ce 70e anniversaire, dans un contexte mondial et européen extrêmement troublé au niveau politique, puisque nous avons une réapparition des mouvements fascistes, d'un certain nombre de mouvements d'extrême droite, voire de mouvements néo-nazis, ces dernières années, en Europe et dans le monde, sous des formes différentes. Alors, sous les formes traditionnelles, comme le néo-nazisme allemand ou autrichien, évidemment, on fait ça à la maison, c'est normal. Et puis, des formes de nazisme plus modernes et plus difficiles à dénicher, comme, par exemple, ce qu'on appelle maintenant dans certains textes, l'islamo-fascisme, avec Daesh et compagnie qui ont des méthodes nazies, même s'ils l'appliquent à d'autres théories que les théories raciales du Troisième Reich. Alors, dans ce contexte mondial, donc, très, très accidenté, il faut bien faire le distinguo entre une fin de guerre commémorée, ce qui est normal comme le 11 novembre 1918, mais qui n'est jamais que la fin d'une guerre d'un impérialisme contre un autre, ou plus exactement de l'impérialisme franco-britannique contre l'impérialisme allemand. Finalement, que les Allemands aient gagné ou perdu la Première Guerre mondiale, ce n'est pas ça qui a changé le monde. Et au niveau des principes, ça n'avait pas une grande importance. Évidemment, pour nous, Français, ça en aurait une, évidemment, mais au niveau politique, au niveau idéologique, ça n'en avait que très peu. C'était surtout une guerre économique. Alors ça ne change rien à l'héroïsme des pauvres types qui se sont fait exploser dans tous les sens de 1914 à 1918, et c'est pourquoi il est quand même légitime de commémorer le 11 novembre, bien sûr. Mais le 8 mai a une connotation beaucoup plus importante, symbolique, parce que c'est une victoire qui est bien sûr militaire, mais c'est aussi une victoire donc idéologique, c'est la victoire sur l'idéologie nazie, qui est l'une des pires idéologies qui ait jamais porté la planète, une idéologie donc basée sur une hiérarchie des races absolument abominable qui conduit à l'idée qu'on peut supprimer des millions de personnes simplement parce qu'ils seraient donc d'une race ou qu'ils appartiendraient à un groupe humain ou à un autre. Et il n'y a jamais eu une pareille ampleur dans le massacre de population. Il y a eu d'autres génocides dans l'histoire, mais jamais de cette taille-là et jamais avec ce côté industriel. On a beaucoup parlé ces dernières semaines, par exemple, du génocide arménien, qui est une épouvante de la Première Guerre mondiale, mais il n'avait pas ce côté systématique et industriel du génocide de la Seconde Guerre mondiale, même s'il était très bien organisé et très affreux, bien saignant.
Il y avait d'ailleurs quelques Allemands dans les organisateurs du génocide arménien.
Oui, ou comme dans le génocide Herero, qui est encore moins connu qu'en Afrique de l'Est, dans l'Afrique de l'Est allemande, où une population entière africaine a été génocidée par les colonisateurs allemands avant que cette colonie ne devienne française, enfin franco-britannique, en 1918. Donc oui, il y a des tendances génocidaires répétitives.
C'est un entraînement.
Voilà. Ah oui. Question d'ampleur. Donc le 8 mai, c'est très différent. Il y a un symbole très fort. Et c'est quelque chose. C'est un combat pour la liberté. C'est un combat contre le racisme. C'est un combat pour la démocratie. C'est un combat contre l'horreur, contre l'inhumanité et surtout contre quelque chose de totalement spécifique au nazisme, la déshumanisation. Et c'est très important aujourd'hui parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit dans le monde des gens qui cherchent à déshumaniser l'adversaire, qu'il s'agisse de l'extrême droite dans les pays européens ou de Daesh qui considèrent donc les yézidis par exemple, qui sont une population chrétienne d'Orient, comme des gens qui ne sont pas humains parce qu'ils n'appartiennent pas à leur même communauté religieuse. Et comme ils ne sont pas humains, on peut les traiter moins que des humains. Et c'est pourquoi, par exemple, Daesh estime que les femmes yézidis peuvent être violées, alors que dans le Coran, on n'a pas le droit de violer, parce que ce ne sont pas vraiment des êtres humains. Et finalement, c'est exactement le même raisonnement que les nazis. Donc ce 8 mai 45, ça fait 70 ans, c'est une date importante. Et je crois que plus que jamais, il faut le commémorer, et le commémorer pleinement. Ce n'est pas simplement une commémoration de souvenirs, mais c'est une commémoration, on pourrait dire, d'actualité.
Après ces grandes phrases, on continue sur cet esprit de fin de guerre en Europe, et surtout fin de guerre en France, pour faire un petit bilan de ces années noires et précisément de ces bons petits Français ou ces mauvais Français, parce qu'il y a des résistants, il y a des collaborations, des collaborateurs pendant la Deuxième Guerre mondiale, et au-delà de tout ça, il y a de la propagande pour dire qui a raison, qui a tort parmi eux.
Alors la propagande, c'est quelque chose de très intéressant dans l'histoire du XXe siècle, puisqu'en fait la propagande a toujours existé. César, avec la guerre des Gaules, faisait déjà de la propagande politique active. Mais ce qu'il y a de particulier au XXe siècle, et surtout à partir de Mussolini, c'est qu'on va utiliser des médias modernes. On va utiliser la radio, on va utiliser le cinéma, on va utiliser ensuite, plus tard dans le XXe siècle, la télévision, et encore plus tard, Internet. Donc ce n'est pas la propagande qui est nouvelle, mais c'est l'ampleur de cette propagande qui devient omniprésente grâce aux nouveaux moyens de communication qu'invente le XXe siècle. Alors, ce qui est particulièrement remarquable, et par rapport aux commémorations dont nous parlions précédemment, c'est l'opposition entre la propagande soviétique et la propagande américaine dans la période dite de la guerre froide, c'est-à-dire entre 1946 et 1990 à peu près. Avec deux propagandes extrêmement fortes qui vont mettre en avant sans arrêt l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, justement, pour légitimer les volontés de domination d'une superpuissance ou de l'autre. Avec deux événements qui sont fondateurs pour l'Union soviétique comme pour les États-Unis. Pour l'Union soviétique, c'est la bataille éminemment importante et éminemment sanglante de Stalingrad, qui est en quelque sorte le mythe fondateur de la nouvelle Union soviétique, l'Union soviétique victorieuse, qui réussit à se débarrasser de son image de collaboration avec Hitler du pacte germano-soviétique grâce à Stalingrad et qui passe à la contre-offensive après Stalingrad. Du côté américain, une entrée tardive dans la guerre, il faut rappeler que les Américains sont entrés le 7 décembre 41 seulement dans la guerre, et ils vont légitimer leur victoire a posteriori en surdimensionnant un événement qui est majeur, mais qu'ils vont surdimensionner par la propagande, qui est le 6 juin 44, le débarquement en Normandie. Et finalement, pendant 45 ans, des deux côtés de l'Atlantique, on va se balancer ces deux références avec une volonté de domination de l'autre par la référence. Et si pendant longtemps les Américains ont réussi à dominer, avec par exemple Le jour le plus long ou Le soldat Ryan au cinéma, eh bien les Soviétiques ont réussi dans les dernières années à faire réapparaître Stalingrad, puis un cinéaste français, Jean-Jacques Hano, va réussir à faire parler de Stalingrad avec son film éponyme, ce qui va rééquilibrer un peu les pendules. Et on a récemment encore, on en reparlera peut-être après, lors des commémorations de la libération d'Auschwitz, reparlé justement de ces dates, et on voit que cette propagande et cette contre-propagande de guerre froide ne sont peut-être pas totalement terminées, même si nous sommes en 2015, et que théoriquement, la guerre froide est terminée depuis plus de 20 ans.
Alors, un avatar de cette propagande de la guerre froide, vue de France, c'est par exemple comprendre la crise ukrainienne dans les médias. Et il y avait, en février dernier, dans le grand journal Le Piaf, un article de Marie qui nous rappelait que l'imagerie de la crise ukrainienne vue de France oppose les héros de l'indépendance, ceux qui ont réussi à rendre l'Ukraine indépendante de sa domination russe, aux soudards pro-russes qui, eux, à l'Est, sont encore pieds et poings liés avec les Russes. Et en fait, l'article reprend un travail fait par l'Observatoire des médias, Acrimed, et on peut retrouver tout l'article sur acrimed.org, leur site, et qui prend un peu de recul sur les formules que nous avons tous lues et entendues dans les médias français. Entre autres, en 2013, en novembre, dès le début de la décision du gouvernement ukrainien de ne pas signer l'accord d'association avec l'Union européenne, on peut déjà voir partir la propagande. Alors, est-ce que c'est de la propagande? Est-ce que ce sont une vision un peu biaisée par les journaux français? Mais si on s'amuse à lire les phrases dans les journaux français, on peut voir que les manifestations pro-européennes étaient une grande insurrection démocratique et populaire. Ça fait partie des phrases qu'on pouvait imaginer trouver dans les journaux de propagande de l'époque. Mais ce n'était pas de la propagande, c'est des journalistes français qui l'ont écrit. Hein. C'est juste que c'est influencé par la pensée globale.
Ce qui est très intéressant avec l'affaire ukrainienne et les presses occidentales et russes, c'est de voir à quel point les références et le vocabulaire reviennent au galop. Les références et le vocabulaire de la guerre froide, mais aussi de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est très étonnant de voir à quel point ces réflexes sont conditionnés par des journalistes qui souvent n'ont même pas subi de pression. C'est simplement que c'est tellement ancré que ça ressort naturellement.
L'exemple le plus frappant, c'est le référendum qui a été organisé à l'Est pour désigner que la Crimée devait rester russe, ou en tout cas, devait rester dans l'enceinte de l'influence russe. Il y a un référendum a été organisé, peut-être critiquable, mais est-ce que beaucoup d'élections sont souvent critiquables, mais les journaux français ont souvent cité un référendum bidon. C'est une expression qui est revenue souvent, par exemple, dans Libération ou dans Le Monde, pour citer ce référendum. Alors,
mais la question n'est même pas, en l'occurrence, de savoir si le référendum était bidon ou non, c'est que la presse occidentale n'a absolument pas détaillé les raisons pour lesquelles elle disait que c'était bidon. Parce que, personnellement, je pense qu'il l'était effectivement, mais ce qu'en disait la presse européenne, c'est qu'il fallait penser comme elle, mais sans donner aucun argument. Et c'est ça qui est problématique.
D'ailleurs, même le président Yanukovych, qui avait été élu en 2010 et qui a donc fui en février 2014, est resté démocratiquement longtemps en tête dans les sondages. Il avait été élu démocratiquement. On l'a souvent dit autocrate, peut-être pas dictateur, mais il a souvent été vu comme ça dans les médias. Alors, est-ce que c'est un avatar de la propagande de la guerre froide, ou est-ce que c'est juste nos médias qui sont incapable de faire la part des choses?
Yanukovych, finalement, n'est pas pire, si on regarde sa politique, qu'un Berlusconi. La différence, c'est peut-être la différence linguistique et quasi-ethnique, Russie-Ukraine, puisque Yanukovych est effectivement très pro-russe. Mais en dehors de ça, il n'est pas pire qu'un Berlusconi, au niveau de l'affairisme, etc. Donc il n'est pas plus antidémocratique que n'était Berlusconi, qui a été reçu par tous les chefs d'État occidentaux, et jusqu'au bout. Par contre, ce qui est intéressant, on voit que justement à la lumière de ce qui s'est passé en Ukraine, on parlait du référendum de Crimée, mais avec les commémorations justement de cette année, de la fin de l'année 44 et du début de l'année 45, il y a toute une série de commémorations qui ont lieu en Europe, dans les différents pays européens, sur la libération des territoires, la libération des camps, la fin de la guerre maintenant. Et à chaque fois, ça pose des problèmes d'inviter des délégués russes, et on s'aperçoit que il pourrait y avoir un problème de boycott des Russes parce qu'on n'apprécie pas leur manière de traiter le dossier ukrainien. La question, c'est de voir que les Ukrainiens, les Polonais, réécrivent l'histoire au passage. Et on a des officiels polonais au moment des commémorations de la libération d'Auschwitz qui a été faite par des troupes soviétiques qui ont été chercher le nom de l'unité qui est arrivée en premier à Auschwitz, qui était une unité qui portait un nom ukrainien. Et qui ont dit, ce sont les Ukrainiens qui ont libéré Auschwitz. Or, le nom de l'unité rappelait l'Ukraine, mais c'était une unité russe. Et donc là, on a une tentative de travestissement de l'histoire qui est complètement ridicule. Qu'on dise qu'on n'est pas d'accord avec Poutine, n'y a pas beaucoup de gens qui sont d'accord avec Poutine en dehors de Russie, c'est un fait. Mais pourquoi travestir l'histoire? Et pourquoi, parce que Poutine est un méchant, les Ukrainiens devraient-ils être tous des gentils? Alors que les Ukrainiens, au début de l'offensive allemande de 41, l'opération Barberousse, ont ouvert les bras aux nazis parce qu'ils avaient plus peur de Staline que de Hitler. Et c'est parce que Hitler a été encore plus bête que Staline que finalement ils se sont retournés contre Hitler. Parce que les nazis ont absolument pas compris que les Ukrainiens étaient tout à fait antisémites au même titre que les Allemands, et totalement donc nazis compatibles, et qu'ils détestaient les Russes. Les nazis n'ont rien compris, ils ont commencé à massacrer des Ukrainiens, et c'est bizarre, les Ukrainiens aimaient bien qu'on massacre leurs Juifs, mais moins qu'on les massacre eux-mêmes. Et donc ils se sont retournés leur veste. Mais et ça par contre, les Polonais et les Ukrainiens le disent plus. Et c'est pour ça aussi que, à contrario, il est facile de voir dans la presse soviétique qui réutilise les termes de fasciste, de nazi, de collaborateur à propos des Ukrainiens. De même que les Ukrainiens rappellent que les Soviétiques les ont affamés, ont causé la mort de 5 ou 6 millions d'Ukrainiens volontairement par la grande famine de 1931, juste sur un oukase de Staline. Donc c'est une affaire extrêmement compliquée, et à la place d'essayer de faire œuvre constructive d'histoire et d'essayer de démêler la part du vrai et du faux, les journalistes ont fait dans le manichéen total, et ce qui est absolument absurde. Et on continue avec les commémorations.
Alors justement, on peut prendre un exemple très concret de ce que tu es en train de raconter, au travers d'une des plus grandes controverses de l'époque du stalinisme, avec...
Katyn,
merci.
Alors oui, Katyn, c'est peut-être l'un des plus grands secrets de Polichinelle de l'histoire. C'est le massacre des officiers et des intellectuels polonais lorsque les soviétiques rentrent en Pologne en septembre 1939, en accord avec les nazis. C'est le pacte germano-soviétique. Ils décident d'un seul coup de décapiter donc l'armée polonaise, mais aussi tous les intellectuels polonais. Et pendant des décennies, les soviétiques vont nier tout le massacre, alors que des archéologues ont fait le travail, des historiens aussi. On a exhumé les fosses communes des officiers de Katyn. On a retiré les douilles qui étaient des douilles soviétiques et tout ce qu'on veut, puisqu'ils ont tous été tués d'une balle dans la tête, très méthodiquement, par les commissaires politiques staliniens. Et pendant 35 ans, l'Union soviétique a absolument refusé toute responsabilité. Et aujourd'hui, c'est du bout des lèvres. Alors c'est là aussi, il y a un manque de discernement total, c'est que de part et d'autre, Poutine refuse encore de reconnaître clairement les responsabilités, alors que tout le monde le sait maintenant, c'est établi, même des historiens russes l'ont reconnu, les documents sortis des archives soviétiques après la fin de la guerre froide l'ont prouvé, donc il n'y a plus aucune équivoque là-dessus. Mais Poutine continue à faire la fine bouche, et de l'autre, la Pologne et un certain nombre d'historiens anti-russe et anti-soviétique s'appuie sur Katyn pour noircir le tableau et mettre Poutine dans le même bain que Staline. Alors que, encore une fois, que Poutine soit un affreux, certes, mais c'est pas Staline non plus. Il faut savoir raison garder.
Alors, toujours en rebondissant sur cette journée du 8 mai 2015, nous allons revenir sur l'Ukraine et voir un petit peu l'actualité d'aujourd'hui, les tensions qu'il y a entre l'Ukraine et le reste de l'Europe.
Là, pour l'instant, c'est plutôt au point mort, mais la question est toujours la même. C'est que du point de vue des Russes ou des post-soviétiques, on serait tenté de dire post-soviétiques quand on parle de Poutine, l'Ukraine fait partie de la Russie. Évidemment, pour les Ukrainiens, c'est un non-sens. La question est de savoir, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de savoir, quand on parle d'Ukraine, quel territoire ça comprend. Et c'était tout le problème de la Crimée. L'Ukraine comprenait la Crimée suite au découpage établi en 90-91. Mais est-ce que c'est logique que la Crimée appartienne à l'Ukraine ? J'en suis pas sûr. Mais est-ce que c'est logique que la Crimée appartienne à la Russie ? J'en suis pas sûr non plus. La seule population légitime de la Crimée, elle a été virée de Crimée, de toute façon, par Staline. Donc, qui est légitime à partir de là ? C'est un peu compliqué. Bon, et après ça, il y a le problème des régions de l'est de l'Ukraine. Il y a à peu près 35% du territoire ukrainien qui est habité par des russophones. Alors, la plupart des Ukrainiens sont de toute façon russophones, en même temps que d'être ukrainophones, deux langues qui sont de toute façon extrêmement proches. Et les russophones de l'Est, pour un certain nombre d'entre eux, sont des transfrontaliers, c'est-à-dire qu'ils ont des familles de l'autre côté de la frontière. Pourquoi ? Parce que tout simplement, comme l'Ukraine a été russe pendant des siècles, c'est un peu logique. Et quand on a découpé les territoires, à la va-vite en 90-91, on ne pouvait pas faire mieux. Et là encore, manque de réalisme total des deux côtés, à la place de s'asseoir autour d'une table et de dire « on va essayer de trouver une ligne de partage sur des bases raisonnables », on s'envoie des obus, on se traite de fascistes de part et d'autre, et ça n'avance pas. Et finalement, on a des gens qui sont des frères, des cousins, et qui se tapent dessus sans arrêt, pour absolument rien, et après ça, il y a aussi le problème de l'Occident. C'est que peut-être que les Ukrainiens et les Russes auraient fini par s'entendre si on les avait laissés tranquilles. Le problème, c'est qu'on a blessé leur orgueil dans les deux sens, puisque les Occidentaux et notamment les Américains, et c'est là que je parlais des réflexes de la guerre froide, ont tiré à boulet rouge sur Poutine, qui, comme un bon coq qu'il est, s'est dressé sur ses ergots. Et à partir du moment où on lui a agité le chiffon rouge du fait que l'Occident défendait les Ukrainiens, réflexe de guerre froide, les Russes ne pouvaient plus rien lâcher. Donc on pouvait plus négocier. Donc on a un blocage complet, psychologique et politique. Militaire, c'est un non-sens. Voilà.
Comment régler le cas de l'Ukraine par Jean-Marc ? C'est quand même un peu caricatural, mais c'est vrai que c'est la psychologie du citoyen lambda d'Ukraine qui est représentée ici et qui laisse penser qu'ils sont dans cette même dilemme de Caribe et Scylla. Est-ce que tu veux présenter la prochaine chanson de Léo Ferré ?
Bah oui, avec plaisir. C'est l'affiche rouge. L'affiche rouge, tout le monde connaît, du moins j'espère. Ça va très bien avec le 8 mai. C'est la chanson de Léo Ferré tirée du poème de Louis Aragon qui raconte l'exécution de Manoukian et de son groupe et qui s'inspire très largement de passages entiers de la dernière lettre de Manoukian à Mélinée, sa femme, qui repartira en arrivant et qui sera une victime du stalinisme.
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. Vingt et trois qui criaient la France en s'abattant.
Bonsoir, vous êtes sur France Fréquence Paris Pluriel, 106.3, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes et du PIAF et des militants de Attac.
Et Patrick, qui va nous parler de Malheur aux vainqueurs. Non ? Ça te va pas comme titre ?
In memoriam. In memor I am. Naître un 8 mai, même s'il faut bien naître un jour, se faire appeler victoire, même s'il faut bien s'appeler quelque chose, merci, papa, maman. Pas un nom qu'on porte, mais un nom qui vous porte à faire du zèle, à devenir, par exemple, artiste, pour l'exemple, et à préparer, lentement, patiemment, pacifiquement, un bel événement en 2015, par exemple. Une belle installation, que dis-je, 10, 20 dans tout Paris, dans toute la France, au pied des monuments à la victoire, à toutes les victoires, pour son joyeux anniversaire et pour tous les anniversaires. J'érigerai une belle installation. Gloire et honneur à nos vaincus. À eux, les poilus, les ispides, à vous, les rasés, morts en loques, à moi, glabres, imberbes, vivant encore, à eux, les armurés, les perruqués, les casquettés, les casqués, morts en loques, les sabreux, les baïonnetteux, les gazeux, les lance-flammeux, à eux, les mitrailleux, les canonneux, les bazouqueux, les mineux, les tanqueux. À vous tous, les caquisés, les treillisés, les cambouisés, les naturisés, les déguisés, les surinformatisés, surélectroniqués, les destroyés, les cuirassés, les sous-mariniers, les chasseurs, les bombardeurs, les parachutés, mourant en loques. À elles, à vous toutes les femmes, mourant en viol, mourant en cloque, à vous tous, mâles et femelles, enfants des deux sexes, pour vous tous, j'érigerai un monument. Gloire et honneur à nos vaincus. À tous les corps sanguinolents qui ont fertilisé le sol, des Alésia, Roncevaux, Crécy, Azincourt, Aboukir, Trafalgar, Waterloo, Sedan, Dien Bien Phu, etc. Un gros, un grand, etc. Ecce terra. Voici la terre. La terre qui vous a englouti, en loque, en cloque, en cloaque, au fond de la glèbe, au fond des fonds marins, au fond de l'oubli, au fond du mépris.
On essaie de rebondir sur un poème pareil, mais l'idée est pourquoi n'y a-t-il pas de monument dédié aux vaincus ? C'est toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire, c'est toujours les vainqueurs qui érigent les monuments à la gloire, à leur grand général. On est ici à l'angle de la rue du Haut-Poule, qui était un des officiers glorieux d'une guerre passée, par exemple.
Faut pas donner le nom du studio, on va se faire descendre.
Et jamais de monument pour les vaincus, ou alors des années après, quand beaucoup sont morts au même endroit. Et finalement, les vaincus ont toujours tort.
Les vaincus ont toujours tort, ça date de César. Ve victis, malheur aux vaincus.
Bon, coupons court et écoutons justement, en mémoire de toutes les guerres, Triane. Guerre, guerre, vente et vent.
Bonjour, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et retour à l'actualité avec Magali qui nous parle du Kazakhstan.
Oui, parce que l'information n'a pas fait grand bruit, en tout cas ai-je trouvé, sans doute parce que les pays en ce temps n'intéressent finalement pas grand monde, certainement aussi parce que ce genre de nouvelles finit par susciter une certaine lassitude, mais je vous l'apprends peut-être, le
pourtant,
dictateur...
on a beaucoup parlé de Yves Montand, mais...
Le dictateur Nursultan Nazarbayev, qui est à la tête du Kazakhstan depuis 25 ans, donc depuis l'indépendance du pays en 91 après la chute de l'URSS, a été réélu président de la République le 26 avril dernier avec un score, je vous l'annonce, 97,5% des voix, qui est quand même son record personnel depuis qu'il n'est plus le seul candidat. Donc les organisateurs de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, OSCE, ont dénoncé un manque de choix réel. Pourtant, il y avait bien deux autres candidats à cette élection qui ont joué les opposants de façade pour faire plaisir aux démocrates. Alors je vous épargne leur nom, parce que c'est assez imprononçable. Alors le premier de ces opposants a centré sa campagne sur les questions environnementales. Le deuxième aime s'insurger régulièrement contre les hamburgers et les jeux vidéo. Bref, des adversaires quand même très dangereux qui se sont partagés moins de 3% des voix. L'OSCE a par ailleurs noté des restrictions majeures, je cite, à la liberté d'expression et dans la sphère des médias. C'est assez étonnant quand on sait que les médias sont contrôlés par la fille aînée du président, Dariga Nazarbayeva. Alors, petit aparté, je me permets quand même pour expliquer un peu la logique clanique qui prévaut au Kazakhstan. Dariga, donc la fille aînée du président, a fait main basse sur les médias. Le gendre de Nazarbayev, lui, c'est le parrain du pétrole kazakh et un maître du pot de vin également. Aliya, qui est la deuxième fille de Nazarbayev, est à la tête de la première entreprise de BTP du pays. Le petit-fils de Nazarbayev a mis la main sur les secteurs télécom et financiers. Et le neveu, lui, dirige le puissant comité de sécurité du pays. Bref,
bah, c'est la Tunisie de Ben Ali, quoi.
Exactement, mais version centra-asiatique. Alors, si on ne parle pas beaucoup non plus du Kazakhstan aujourd'hui, c'est que Nazarbayev est un dictateur finalement qui ne gêne pas grand monde en Occident. Il a même plein d'amis, attirés par les richesses du pays, gaz, pétrole, métaux rares, etc. Et les promesses de contrats juteux pour l'industrie européenne. Alors, les relations franco-kazakhes ont été particulièrement florissantes sous l'ère de Sarkozy, avec certains parlementaires qui ont été très actifs. Je cite par exemple l'exemple de Thierry Mariani, président du groupe d'amitié franco-kazakhstanais à l'Assemblée, ou encore Emery de Montesquieu, sénateur du Gers, qui est carrément devenu accro au Kazakhstan, avec une centaine de déplacements dans le pays à son actif. C'est un record. Alors, c'est à cette période, justement, en 2010, que se négocie un contrat de vente d'hélicoptères pour un montant de 2 milliards d'euros. Un contrat qui est aujourd'hui au cœur d'une affaire qui éclabousse l'entourage de Sarkozy, puisque plusieurs personnes ont été mises en examen en mars dernier.
C'est pas vrai, ils sont pas éclaboussés, parce qu'ils sont noyés depuis longtemps, donc on peut pas être
voilà, éclaboussés. Voilà, oui, on peut dire ça, effectivement, qui éclabousse encore l'entourage de Nicolas Sarkozy. Plusieurs personnalités donc ont été mises en examen, dont le chargé de mission de l'Élysée de l'époque, Jean-François Étienne de Rosay. Et celui-ci est soupçonné d'être intervenu auprès d'un sénateur belge, Armand de Decker, pour l'adoption d'une disposition législative favorisant un homme d'affaires belgo-kazakh, Patok Chodiev, qui est lui-même un proche de Nazarbayev. Alors, concrètement, ce Chodiev, il était poursuivi en Belgique pour blanchiment d'argent, et le deal, ça aurait été donc que la France aide Nazarbayev à sortir ses amis oligarques de leurs ennuis judiciaires en Belgique, et en retour, le Kazakhstan achète des hélicoptères français. Le tout, bien entendu, assorti de versements de rétrocommissions. Bref, aujourd'hui, si François Hollande marque plus de distance, on va dire, avec le dictateur kazakh, l'ambition commerciale de la France dans ce pays...
Il y a une très belle photo, pourtant.
Oui, oui, il y a une très très belle photo sur, que je vous invite à regarder sur Internet. Surtout, l'ambition commerciale de la France reste importante. Et le voyage présidentiel de décembre dernier, donc Hollande qui s'est rendu au Kazakhstan, en témoigne. La question qui se pose aujourd'hui, ben, c'est est-ce qu'on peut réellement faire du business propre dans un pays qui est quand même gouverné par des escrocs ?
Ah, nous avons un appel, nous le prenons à l'antenne en direct donc. Allô, qui êtes-vous monsieur ?
Alors c'est Paul Bismuth.
Paul Bismuth, c'est un nom qui fait parler dans les médias en ce moment, je crois.
Je connais bien l'ancien président Sarkozy, qui est un homme très très bien, et je voudrais m'insurger en direct à l'antenne contre les accusations qui viennent d'être proférées. Il n'y a pas d'affaire autour de Sarkozy, ça n'existe pas, et il n'y a pas de Kazakh Gate. C'est pas parce qu'on prend 200 ou 300 millions comme ça au passage qu'on est corrompu.
Je crois que nous avons des gens qui nous écoutent du côté de la sécurité nationale, mais... Ça ne vous pose pas de problème, monsieur Bismuth ?
Non, non, j'ai l'habitude. Hein.
Bon, ben, nous vous remercions pour cette intervention. Et nous enchaînons avec la Grèce, n'est-ce pas, Gaël ?
Et les bobards médiatiques sur la Grèce, suite à la publication d'un petit livre édité par le collectif pour un audit citoyen de la dette publique, donc un collectif qui rassemble des syndicats, des associations, et qui vise à mettre en débat le caractère illégitime et insoutenable des dettes publiques, et qui remet en question donc un certain nombre d'idées reçues sur la dette grecque. Alors depuis la victoire de Syriza, et même un peu avant, les médias dominants ont lancé une grande offensive de propagande qui vise à décrédibiliser toute politique qui romprait avec l'austérité imposée à la Grèce. À commencer par l'idée d'annulation de la dette. Ça a été répété partout, l'annulation de la dette coûterait 600 euros à chaque contribuable français. En fait, c'est une connerie. Si la France a prêté à la Grèce en empruntant, ça représente 30 milliards d'euros de nos 2000 milliards d'euros de dette. Et si la Grèce annulait sa dette vis-à-vis de la France, on n'aurait rien à débourser, puisque la France, comme la plupart des pays, ne rembourse jamais vraiment sa dette. En effet, lorsqu'un emprunt arrive à échéance, la France le rembourse en empruntant de nouveau. Donc la seule perte pour les contribuables français... ce serait les intérêts de la dette grecque, c'est-à-dire environ 15 euros par contribuable et par an.
Mais quand même, quand on doit de l'argent, il faut rembourser.
Non, tu n'as pas bien suivi. Un État ne rembourse jamais sa dette. Il réemprunte en permanence pour rembourser, et finalement il paye des intérêts en permanence, mais jamais ne rembourse le principal, le capital. Pour une raison simple, c'est que contrairement au bon père de famille qui doit, lui, rembourser ses dettes, un État est immortel. Donc il peut être endetté pour l'éternité, sans forcément inquiéter ses créanciers. Ça se gâte quand plus personne ne veut prêter à des taux raisonnables et qu'en plus l'État n'a pas la main sur la création de monnaie, comme c'est le cas de la Grèce.
Ouais, il y a l'emprunt russe, hein.
En fait, l'annulation de la dette n'est pas une question morale, comme on le présente dans la propagande libérale, mais une question économique et politique. Quand la dette est trop lourde, il faut l'annuler ou la restructurer pour permettre au pays de repartir. C'est ce qu'on a fait pour l'Allemagne en 1953. Mais ils ont oublié. Et puis plus récemment, l'Équateur et l'Islande ont annulé leurs dettes, et ça a été très bénéfique.
Alors donc les Grecs ont vécu comme des cigales en s'endettant, et on devrait annuler leurs dettes.
Alors là encore, il y a beaucoup d'idées reçues. Le rapport entre les dépenses publiques et le PIB de la Grèce est resté constant, de 90 à 2007. En fait, ce qui a gonflé la dette, c'est pas une gabegie de dépenses sociales et de fonctionnaires, c'est à la fois l'explosion des taux d'intérêt et les cadeaux fiscaux. En ce qui concerne les taux d'intérêt... la Grèce, dans les années 90, a payé des taux d'intérêt de 7,5% pour une croissance de 2,5%. Donc pour pouvoir payer, elle s'est encore plus endettée, avec un effet boule de neige. Si le taux d'intérêt était resté limité à 3%, La dette publique grecque aurait représenté 64% du PIB en 2007 au lieu de 103%. Le deuxième facteur de gonflement de la dette, ce sont les cadeaux fiscaux qui ont bénéficié aux plus riches, alors qu'aujourd'hui ce sont les plus pauvres qui payent. Si les recettes fiscales avaient gardé leur niveau de 2000, la dette publique grecque aurait représenté en 2007 86% du PIB au lieu de 103%. Donc globalement, avec, en cumulant les deux, avec des taux d'intérêt raisonnables et un simple maintien des recettes fiscales, la dette grecque aurait été deux fois plus faible en 2007. En ce qui concerne l'explosion de la dette après 2007, là, elle vient clairement de la politique imposée par la Troïka, qui a plongé la Grèce, dans la récession.
Oui, on a bien aidé les Grecs ces dernières années. Ils nous sont un peu redevables, non ?
Alors effectivement, la Grèce a reçu 207 milliards d'euros de prêts, donc des prêts, pas des simples aides, entre 2010 et 2013. Mais sur ces 207 milliards, seulement 15 milliards ont été utilisés pour des dépenses publiques. Tout le reste a servi à recapitaliser les banques privées grecques et à payer les créanciers de l'État. Sans compter que, comme ce sont des prêts, les Grecs doivent payer les intérêts de ces prêts, qui représentent 30 milliards en 2015. Donc pour résumer, les Grecs payent chaque année 30 milliards d'intérêts pour un prêt dont ils ne touchaient que 15 milliards. Donc les vrais gagnants de l'affaire, ce sont les banques.
Bon, d'accord, pour l'instant, les Grecs souffrent un peu. Mais l'austérité, c'est comme un médicament, hein. C'est pas très agréable, mais après, ça va mieux.
C'est ce qu'on nous dit. Certains journalistes économiques s'extasient de la croissance de 2,5% prévue pour la Grèce en 2015 et d'un début de baisse du chômage. Ils oublient juste une chose, c'est qu'en 7 ans, la politique imposée par la Troïka a fait chuter le PIB grec de 26% et que le chômage aujourd'hui atteint 26%. Donc en fait, oui, ils ont raison. Une fois qu'on a touché le fond, on a un peu plus de chances de remonter que de descendre plus bas. Et aujourd'hui, on a hélas la preuve concrète que les politiques d'austérité sont une catastrophe économique. La seule politique qui peut sauver la Grèce, c'est de renégocier la dette, d'arrêter la casse sociale, de lutter contre la fraude fiscale, d'arrêter ces privatisations qui privent l'État de ressources. Et cette politique, c'est celle menée par Syriza, et c'est tant mieux.
Moi, je dis la seule politique valable pour un Grec, c'est salade, tomate, oignon.
En tout cas, toutes les austérités grecques ne pourrait finir à exister en Europe, parce qu'au-delà des compromis pays à pays ou des aides de l'Europe, on a aussi des traités internationaux qui essayent de modifier notre quotidien et notre décision démocratique européenne. Alors justement, il y a un petit bouquin assez bien fait de Frédéric Vial, dont Patrick va nous parler.
Oui, il s'agit du Manifeste contre les accords transatlantiques, paru aux éditions Éric Bonnier. Et donc Frédéric Vial, un important militant d'attaque qui est même au sommet de l'association, crie alerte citoyen, projet d'attentat massif contre la démocratie. Alors les sigles qui risquent de changer notre vie, c'est le TAFTA et le CETA, qui sont les deux accords de libre-échange en cours de réalisation avec les États-Unis et le Canada. Seulement, les négociations se passent d'une manière assez occulte. Les textes sont tout à fait inaccessibles pour le moment. Et ces accords de libre-échange, eh bien, ils vont brader nos principes les plus fondamentaux. Et cela dans tous les domaines. Le choix de la société complètement méprisé. Les services publics qui sont marchandisés, qui vont être marchandisés. Et le droit de veto qu'auront les entreprises transnationales sur les choix politiques. Et ça, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que nos hommes politiques, nos dirigeants politiques devront se soumettre au veto des entreprises transnationales. Alors ça peut paraître un petit peu incroyable et il faudrait rentrer dans les détails, mais ce petit livre explique extrêmement bien la façon dont ça fonctionne. Et donc, on peut s'attendre aussi, par exemple, à manger du poulet chloré, des OGM, évidemment, du bœuf aux hormones. Et puis, peut-être plus grave encore, de voir nos protections sociales et environnementales démantelées pierre après pierre, tout ça parce que les entreprises transnationales auront des intérêts qui primeront sur ce qui est le bien-être des citoyens. Et donc, ce que dit Frédéric Vial en conclusion, c'est que c'est le principe du libre-échange auquel il faut s'attaquer, ce qui peut paraître ne pas être une idée vraiment nouvelle. Seulement, il donne presque un plan, point par point, pour s'attaquer sérieusement à ce libre-échange, en tout cas à tous ses défauts, et se donner les moyens de réussir. Donc voilà, c'est un petit livre d'une centaine de pages, extrêmement clair, avec un peu d'humour jour aussi parce que vous pourrez de temps en temps vous détendre en voyant comment les Montvoisins, la famille Montvoisin, on dirait un petit peu les Bidochons, réagissent face à cette situation à laquelle ils ne comprennent pas grand-chose. Mais quand vous aurez lu le livre, vous aurez tout compris.
Alors, on peut reconclure sur cette évolution finalement de tous ces traités depuis 1945 en se posant la question finalement à chaque fois qu'on parle ici par exemple à cette antenne des différents traités internationaux ou des différentes organisations. Par exemple, il y a un organisme dont on ne parle quasiment plus, c'est l'OMC. C'était lui auparavant qui pilotait les traités internationaux globaux. Aujourd'hui, l'OMC est un peu trop démocratique. Les États arrivent à bloquer l'OMC parce qu'ils refusent cette vision globale. Alors c'est pour ça que naissent tous ces traités bilatéraux, pays à pays, ou là, en l'occurrence, États-Unis, État d'Europe.
Alors justement, Frédéric Vial en parle dans son livre, et Pascal Lamy, c'est répandu dans les journaux depuis quelques jours, Pascal Lamy c'est l'ancien chef de l'OMC justement, Cocorico c'est un gentil petit français qui après avoir été au cabinet de Mauroy a émigré vers les sphères de l'économie la plus ultralibérale mondiale et qui a cornaqué justement le développement de l'OMC. Et il trouve que vraiment il n'y a aucun problème sur le TAFTA, sur les traités transatlantiques, que c'est très très bien et qu'au contraire ça va augmenter les protections pour les citoyens. Donc, vous voyez, c'est bizarre, mais celui qui était à la tête de l'OMC, qui était déjà une catastrophe pour les citoyens, trouve que les nouveaux traités transatlantiques sont bien. Rien que cette signature de Pascal Lamy, ça devrait faire comprendre aux gens qu'il faut faire absolument le contraire.
Alors, tous ces organismes qui étaient l'OMC et aujourd'hui c'est TAFTA, CETA, sont là pour créer le libre-échange. Ils sont surtout là pour permettre aux renards d'être libres dans le poulailler. On reprend toujours ce schéma. Mais juste un petit rappel pour 1945, vu que c'était la création cette année-là des différents accords, plutôt 1944, pardon, de la conférence de Bretton Woods, qui était présidée par différents hommes politiques, mais aussi par un économiste qui s'appelait Keynes. Beaucoup se réfèrent aujourd'hui pour parler de libéralisme, mais finalement tous les principes de ces traités et aujourd'hui de ces traités bilatéraux se disent de vouloir permettre de relancer l'économie, d'avoir une vision proche des gens. Mais si on se réfère aux pensées, comme on dit, keynésistes de 1944, c'était pas du tout ça. Les traités que voulait mettre en place Keynes, c'était des institutions, certes, globales, avec un respect d'accords commerciaux à la sortie des États. Et son premier principe, c'était un dispositif d'ajustement de créances, c'est-à-dire d'imposer au pays qui sera en excédent commercial des taxes, et pour permettre à ce que les pays en déficit, eux, aient une compensation financière. Bref, de réguler l'économie avec une vision où les pays riches devraient accepter des taxes sur l'exportation ou alors accepter d'importer davantage.
Bah, quand il a vu comment on respectait ses idées, il a préféré mourir d'une crise cardiaque.
Voilà, il est mort avant que les traités soient signés, même si c'est lui qui avait présidé à l'origine la chose. Il avait même créé une sorte de monnaie pour les échanges internationaux qui s'appelait le Bancor, qui aurait remplacé quelques années plus tard sous le poids que le dollar est devenu. Enfin, à l'époque, c'était l'or qui remplaçait ça. Enfin bref, tous ceux qui se réclament d'être keynésiens aujourd'hui sont en fait des sociaux-libéraux qui défendent le modèle dominant.
Bah, le keynésianisme est mort puisque ceux qui devraient le défendre sont tous passés à droite, c'est-à-dire les socialistes et les sociodémocrates.
Pauvre France. Il y a une époque où on parlait de la France libre et on va écouter justement Super Preachers.
Écoutez cette conversation.
Malheureusement, je dois partir maintenant.
Vous devez vraiment partir, Brigitte.
Moi, général de Gaulle, moi, général de Gaulle, j'invite tous les Français. Vive la France, libre!
Bonsoir, vous êtes sur 106.3, fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de Attaque.
Et voici l'agenda du mois de mai.
Une projection des balles le samedi 9 mai 2015 à 18h. C'est le film de Howard Zinn, Une histoire populaire américaine. Selon Wardine, tant que les lapins n'auront pas d'historien, l'histoire sera racontée par les chasseurs. Et c'est cette histoire des lapins que va raconter Wardine. Donc c'était à 18h, samedi 9 mai 2015, à l'espace Saint-Michel, 7 place Saint-Michel.
Alors justement, l'histoire n'est pas racontée par les chasseurs. Ça rappelle quelque chose à Jean-Marc sur la commune et 1870. Les monuments ont disparu de 1870.
Ah oui, alors ça recoupe ce qu'on disait tout à l'heure sur les vaincus avec Patrick, c'est que en Allemagne, il y avait des monuments aux morts suite à ce qui pour eux est une victoire, la victoire de 1870, et beaucoup de ces monuments aux morts ont disparu après 1918. Ont disparu de deux manières, c'est-à-dire que soit ils ont carrément été détruits parce que la honte de 1918 avait effacé la gloire de 1870, soit on a cessé de les entretenir parce que justement, la honte de la défaite était passée par-dessus. Et après ça, il y a les monuments aux morts des pays satellites qui ont disparu, notamment les pays autrichiens. C'est-à-dire que dans un certain nombre d'endroits, les monuments aux morts ont disparu parce que le fait que l'Allemagne et l'Autriche aient été alliées permettait d'effacer la victoire allemande de 1870. Du point de vue autrichien aussi, parce que les Autrichiens avaient été battus par les Allemands 4 ans avant, en 1866. Donc la mémoire est à géométrie variable. Et pour l'anecdote, il y a quand même en France des monuments aux morts antimilitaristes, dont un avec un petit écolier bien connu qui serre le poing et qui dit « à bas la guerre ».
Le 12 mai, une date importante, réservée-là d'avance.
Oui, on en parlait tout à l'heure avec le livre de Frédéric Vial. Attac organise une soirée sur le thème du taffetas et du CETA pour, je cite, « faire sa fête au taffetas et au CETA ». Donc ça sera le 12 mai 2015 à 18h30 à l'espace Reuilly dans le 12e. C'est une soirée qui se veut à la fois théâtrale puisqu'il y aura une pièce intitulée « La traversée au risque à bord du taffetas ». Culturelle avec un débat citoyen, gustative avec un bar et un buffet entièrement bio. Et puis ce sera aussi une soirée festive puisque Attac accueillera le groupe Supernatural Orchestra. Alors le nombre de places est limité, donc il est conseillé de réserver à l'avance avec une adresse mail 12mai@attac.org.
Alors, conférence débat, climat et changement climatique, conférence débat sur le climat avec trois chercheurs auteurs du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, CEA, CNRS, UVSQ, Gif-sur-Yvette, avant l'Alternativa des 6-7 juin 2015, venez faire le point sur le climat de la Terre, son histoire et son évolution, le GIEC, la COP21, avec des chercheurs de la région à la pointe des connaissances, mardi 12 mai 2015 à 20h, La Verrière, le Scarabée, 7 bis avenue du Général Leclerc, La Verrière, 78. Plus d'infos sur le site d'Attac 78. Et on annonce peut-être la présence de 2-3 témoins privilégiés qui sont des ours blancs.
Si vous voulez savoir quels sont les enfants cachés du général Pinochet, ce sera présenté par Maurice Lemoine, qui est l'auteur de ce dernier de ses livres. Ça se passe mercredi prochain, 13 mai, à 19h, à la Maison de l'Amérique latine, 217 boulevard Saint-Germain, à Paris 7e.
Si vous voulez des nouvelles d'Edward Snowden, la personne qui a déclenché le plus grand séisme politique aux États-Unis en donnant connaissance des documents secrets défense de la NSA. Ce documentaire sera projeté le 18 mai à 20h au Centre culturel La Clé, rue d'Aubenton à Paris, et sera suivi d'un débat.
Le mercredi 20 mai, la projection du film de Yanis Yuluntas, Ne vivons plus comme des esclaves, ça nous parle de la résistance grecque à l'ordre néolibéral. Donc c'est mercredi 20 mai 2015 à 20h30 au Centre culturel Sidney Béchette à Grigny.
Le 23 mai prochain, nous marcherons contre Monsanto pour une agriculture durable et une alimentation saine. L'arrivée de la marche se fera vers 18h30, place Joffre, au Champ de Mars pour des prises de parole. Et ce sera suivi d'un concert avec les Gueules de Voix, Volute et le Sound System de la Manifestive jusqu'à 21h30.
Jean-Marc.
Alors, quatrième rencontre nationale des médias libres et du journalisme de résistance du 28 mai, le jeudi 28 mai au dimanche 31 mai à Mémac en Corrèze, http://www.media-o-libre.org.
Les forces anti-austérité d'Europe vous donnent rendez-vous pour le premier forum européen des alternatives. C'est samedi 30 mai, place de la République, avec 3 plénières, 30 ateliers, etc. Et ensuite le soir, le samedi soir, un grand concert des peuples debout. Site web www.forumdesalternatives.eu.
Et on terminera le dimanche 31 mai à 14h au bar-restaurant Le Lieu-dit pour le petit salon du livre politique. Ce sera la 8e édition. C'est 6 rue Sorbier dans Paris et le site web lelieudit.com. Et nous achevons comme cela l'émission d'aujourd'hui. Et nous remercions Jean-Marc, Patrick, Magali, Gaël et Claude à la régie. Et nous écoutons pour terminer le Sacre du Tympan.